Bonjour papa.
Oui.
Ça va?
Ça va.
Ouais, tu étais rentré à la maison tout à l'heure?
Oui, j'étais rentré. Hein.
Ah, tu repars?
Ouais, j'étais rentré. Mais ta maman, elle est là?
Ouais, elle est à la maison. Ça, c'est la muette en fait. Mais moi, je vais aller à l'intérieur de la muette. Là, on est autour de la muette. Et tous les bâtiments, jusque le beige, un peu rose saumon, là, c'est nouveau. Enfin, ça fait 3 ans, quoi. Ah oui, là, on voit quand même un petit bout de ma résidence. Là, c'est juste ça. Il y a trop de trucs qui sont rajoutés dans l'espace, en fait. Avant, tu pouvais passer d'un endroit à un autre beaucoup plus facilement. Maintenant, tu dois faire des détours parce que c'est des résidences fermées avec des grillages et tout. Oh, alors, ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Pareil. Et du coup, les chats, ils sont pas là. Je pense qu'il fait trop froid. Et ça, là-bas, c'est le... C'est la cour de récré de mon école. Et mon petit passage qui se ferme. Il y a des croquettes pour chats, donc je pense qu'ils sont dans les parages. Il y a des fenêtres cassées là. Et le fameux passage qu'on a vu de l'autre côté. Ça prenait tellement pas de temps quand on sortait de la maison qu'on venait par là. Enfin, maintenant, t'es obligé de faire le tour. En ce haut lieu du martyr juif, le poète Max Jacob est mort le 5 mars 1944. Je pense que c'est pour ça que ma résidence, elle s'appelle Max Jacob aussi. Il faut que c'est sûr, c'est pour ça.
Ce qui disparaît, cartographie d'une nostalgie du 9-3. Un documentaire de Myriam Rabat-Konaté, réalisé par Somanina.
Il y a des souvenirs là-bas, hein?
Jamila Rabat.
Non mais là, c'était la miette, franchement, avant, c'était pas comme ça. Hein. En plus, derrière là, avant d'arriver à la cité de la Muette. Tu te rappelles, il y avait un petit... un vieux pavillon. Tu te rappelles?
Ah oui, 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 oui.
Là, oui. Oui, oui. Mais ils ont fait un parking.
Mais même derrière, il y avait des chats.
Ouais.
Mais il y avait mon chat qui est parti. Mais parce qu'avant, c'était de l'herbe. C'était comme une espèce de parc sauvage...
Mais c'était bien, malgré ça, moi je trouve que c'était bien, que maintenant qu'on voit qu'il y a des immeubles, voilà, bah, il y a des immeubles beige, des immeubles blancs, des balcons. Mais avant, comme on voit des pavillons, mais ils n'habitent même pas là-dedans, ils étaient abandonnés ou ils étaient morts. C'était, pour nous, c'est comme, on sait qu'on va passer par là, on va voir cette vieille maison comme ça, c'est... comme un symbole. Mais c'est vrai, je me rappelle comme sur l'avenue Marceau, il y a des symboles qu'on se connaît. Voilà, c'est...
Eh oui, c'est comme ça. Comment t'as atterri ici?
Ben, je fais une démarche pour voir un logement social. Ben, c'était pas facile. Puis avec les rendez-vous à la mairie et tout. Mais après, ils m'ont dit, voilà, vous venez pour visiter, il y a... un logement à 186 avenue Rambarbis qui est libre. Quand on est venu visiter, ben c'était voilà, c'était bien. Franchement, c'était bien. C'était même les gens qui habitaient ici, il y avait un système de respect, il y avait tous les origines. Et on a toujours bonsoir, bonjour, bonsoir. Il y en a les petites dans les escaliers, voilà, on parle un petit peu, voilà. Il y avait le maire là, le ministre qui habite en haut. Franchement, il était respectueux.
Maurice Nilès.
Voilà, oui.
T'as pas vécu dans d'autres villes depuis 93, t'as vécu que à Drancy?
Non, que à Drancy, hein. Que à Drancy. Mais j'aimais bien, franchement, jusqu'à maintenant, j'aime bien, mais je vois, il y avait beaucoup de changements. vers l'avenue Arbois, tu te rappelles, où il y avait le restaurant chinois, ils l'ont devenu, là, il y avait le marché couvert là-bas. Il y avait pas mal, ce côté-là encore qu'ils ont en train de construire, je sais pas quoi, tu te rappelles qu'il y avait un ancien café là.
Oui, ouais, ouais.
Après, il y avait un boucherie, franchement marocain, il y avait un... Là, qui fait les ongles, quoi. Après, il y avait une boutique qui vend le chocolat. Après, il y avait l'ancien marché couvert. Après, il y avait le manège. Et c'était content, les enfants. Ce manège-là, il était là pendant des années. Les enfants, ils vont y aller avec leurs parents pour faire le marché. Après, ils vont faire un tour de manège. Ils étaient tellement contents. Là, on voit les bâtiments. On rentre des bâtiments, on sort des bâtiments. C'est ça, on voit que ça. Déjà, la population, ça monte. En plus, je pense que ça monte plus dans le 93 que dans les autres régions. Je ne sais pas. Ça, c'est mon avis à moi. Parce que je vois maintenant, le bus, ils sont blindés. En plus, c'est tout le bus. C'est pas que de Drancy, c'est pas que le 143 qui va vers le... la gare de Bourget, mais tout, je prends tout le bus, il y a du monde, 146, 148, 143, le 248, ça dépend les heures, mais on dirait que c'est tout le monde, il vient vivre ici, dans le 93, peut-être, il choisit les... Ah. Va dans le 93.
Bobigny, Pablo Picasso.
Là, derrière vous, vous avez donc la gare de métro, la gare routière.
Sébastien Radouin.
Donc, tous les bus. Et puis le métro qui a été inauguré en 1985 à Bobigny. Et puis bon, comme Bobigny est la ville-préfecture du département de la Seine-Saint-Denis, il y a tout un réseau de bus qui part et qui arrive à Bobigny Pablo Picasso. C'est une des raisons pour lesquels aussi Bobigny avait été désigné ville-préfecture en 1964, c'est parce qu'elle est relativement centrale dans le département.
Non, c'est bon, on peut y aller.
Le tram, lui, il est arrivé en 1992. C'est un des grands chantiers qui a été porté par le département de la Seine-Saint-Denis dans les années 80, et donc il relie au départ Bobigny à Saint-Denis, et très clairement aujourd'hui il est sous-dimensionné, c'est-à-dire qu'il y a un écart entre ce qu'ils avaient prévu en termes de voyageurs et la réalité des usages et des pratiques de ce tram. Pour moi c'est un calvaire, enfin je veux dire c'est vraiment le point noir pour moi de la première couronne de la Seine-Saint-Denis. Parce qu'il est trop petit, trop étroit, donc on est vraiment les uns sur les autres. Son passage n'est pas assez régulier. Donc il y a une proximité en fait qui se crée entre les gens, ça se bouscule. On peut attendre 30 minutes, on ne sait même pas pourquoi. Et c'est vraiment, je pense que c'est une des infrastructures qui contribue le plus à un malaise et au mal-vivre quotidien quoi, dans le département. Enfin, pour Bobigny en tout cas, mais je sais que sur l'ensemble de la ligne, c'est compliqué.
Bah moi, je l'appelle le petit train, c'est pas...
Ouais, c'est vrai que j'avais écouté une émission à la radio où les chauffeurs l'appelaient, lui, le Jurassic Tram. J'ai l'impression que dans ce territoire, ici, je pense, on ne respecte pas, en fait. C'est... Voilà, vous pouvez avoir un tram de merde, ça ne pose pas de problème. De désintérêt ou de d'irrespect au regard des habitants de Bobigny et peut-être de la Seine-Saint-Denis de manière générale. cette ville préfecture, cette ville nouvelle, elle s'est construite autour du centre commercial. Le centre commercial Bobigny 2, qui était sur dalle. Hein, vous aviez au moins, c'est pas deux, voire trois niveaux de parking en dessous du centre commercial en tant que tel. Le centre commercial qui était une sorte de grand mail piéton couvert qui reliait la préfecture à l'hôtel de ville. Ce centre commercial, il a été démoli il y a 3-4 ans. Mais en fait, cette démolition et cette disparition du centre commercial et de manière générale de l'urbanisme de dalle, c'est-à-dire des passerelles, de tout ce réseau, parce que la ville, elle est construite autour d'un réseau de circulation piétonne, circulation verticale, voilà, qui surplombe en fait toute la voirie et qui est en fait des circulations douces, des circulations voilà, qui n'étaient pas parasitées en fait par l'automobile. Voilà, qui était, on était au-dessus de la ville, dans la manière de la pratiquer, d'aller d'un point à l'autre. Et donc tout ce système-là, il a été remis en cause, je dirais, dès les années 90. Et donc dans les dispositifs qu'on appelait les grands projets de ville, GPV, qui étaient contractualisés avec l'État, il y avait la volonté de transformer, de modifier, de renoncer à cet urbanisme de dalle, et de faire redescendre la ville au niveau de la rue. En fait, vous aviez donc le centre commercial, et ce centre commercial, il était rattaché par des passerelles à d'autres équipements et aussi des quartiers d'habitation sociale. Donc vous aviez, voilà, comme ça, une sorte de bouquet de tours. Vous aviez Chemin Vert, Salvador Allende, Paul-et-Loire, Karl Marx. L'enquête du Grand Paris et des travaux qui sont mis en œuvre à Bobigny depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a cette idée de se conformer en fait à un modèle urbain qui n'est pas le nôtre au départ. Et ce modèle urbain, il fait autorité, et, il s'impose partout en France. C'est au niveau de la rue, reconstituer des rues, ce rapport à la rue, donc la densité. Moi, je trouve ça dommage qu'à Bobigny, on n'ait pas essayé de s'appuyer aussi sur les atouts que constituait en fait cet aménagement, cette conception de la ville. On est une forme de conformisme qui s'est opérée alors qu'on aurait pu essayer de penser quelque chose d'autre. On connaît l'importance aujourd'hui dans la ville durable, des mobilités douces, du végétal. Je veux dire, on avait tout un réseau, tout un dispositif qui permettait peut-être justement de capitaliser sur ses bienfaits ou ses qualités. Je veux dire, plutôt que de réfléchir à son évolution et à une transformation prenant acte et s'appuyant sur ses qualités, ses atouts, on a démoli, on a détruit pour se conformer à un modèle d'urbanisme, un modèle urbain très éprouvé, très fait autorité, très parisien, qui a son intérêt, mais là, qui n'a pas à être exclusif. Donc là, on est au niveau de la préfecture, sur une grande place. Et donc, c'est ces bâtiments qui sont construits, je crois, dans les années fin 60, début des années 70. Comme vous pouvez le voir, il y a un bâtiment qui a été démoli. Ce bâtiment obstruait, en fait, le passage entre la place et la gare routière, Bobigny Pablo Picasso. Donc là, maintenant, depuis sa démolition, on a une vue continue hein, jusqu'à la gare routière. Et donc, c'est à cet endroit que sera construite la gare du Grand Paris Express Bobigny Pablo Picasso, à l'horizon 2030.
Ah oui, il y a un petit
décompte.
Il y a un petit décompte des JO là. Ouais. Donc JO 198 et Jeux paralympiques, J231 et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, accélérateur d'histoire. Là, on arrive sur la place Front Populaire.
Pauline Guinard.
Qui n'a de populaire que le nom. Et face à nous, un nouveau bâtiment de verre et de béton. Paris 2024. Donc, vous l'aurez deviné, c'est le siège des Jeux Olympiques.
qui arrive sur cette place où il y a le métro, qui est la ligne 12, qui a été déjà prolongée jusque-là et puis après. Justement aussi dans cette logique du Grand Paris, et notamment le Grand Paris Express. Donc vraiment une infrastructure de métro destinée à relier les communes de la première couronne. C'est quelque chose qui transforme radicalement les espaces, enfin les gares en elles-mêmes, et puis autour des gares. Ici, on n'est pas sur une nouvelle ligne, mais on est sur l'extension des lignes. La ligne 12, la ligne 11, voilà, on a un certain nombre. Et puis aussi une hausse des prix du foncier qui va avec à chaque fois qu'un métro s'étend, hein, dans une logique qu'on connaît malheureusement assez bien. Je regarde juste... Ouais, on prendra à droite là. Donc, si tu t'arrêtes deux secondes là, voilà là, typiquement là, ce qu'on appelle une dent creuse, c'est-à-dire un espace non bâti. On ne sait pas encore ce qu'il y avait avant, mais on a déjà les palissades autour, sans doute un peu ancien, parce que là on a encore le porche qui reste là, avec des briques rouges, plutôt un style ouvrier début 20e, je dirais, a priori. Hein. Et puis un grand panneau, oh, le quartier bouge et ça va changer la donne. Avec Aubervilliers, Saint-Denis et Pleine Commune, puisqu'on est aussi sur un espace limitrophe entre plusieurs communes, mais toutes appartenant à ce grand ensemble qui est Pleine Commune. Donc là, on nous annonce le mal piéton, là, le fameux qu'on voyait, une rue avec accès au bureau, projet de rénovation urbaine. Alors ce qui est intéressant avec le terme de rénovation urbaine, contrairement à ce que le terme indique, ça ne veut pas dire on rénove l'existant, ça veut dire destruction et reconstruction. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on voit, puisqu'on ne voit pas ce qu'il y avait avant. On suppose que ça a été détruit. Et on va avoir un nouveau bâtiment, bureau, logement, c'est pas très clair sur le panneau, mais voilà. Là, on voit en acte la transformation urbaine se faire. Et là, on continue à avoir une alternance, hein, de bâtis anciens, de palissades qui annoncent des chantiers à venir. Café, le premier qu'on voit depuis tout le monde. Et un panneau, Saint-Denis à notre droite et Aubervilliers à notre gauche. Et en face, l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Et juste au coin, une petite maison en meulière qui résiste. La question, c'est de savoir pour combien de temps. Et en face, une épicerie, je suppose, bio et solidaire. Quelque chose me fait dire que ça doit être quelque chose de cet endroit. Donc là aussi, hein, les commerces comme indice de transformation de la population, parce que pour pouvoir acheter ce type de produit, eh ben, faut avoir un certain revenu. Je vous propose qu'on traverse.
Coucou.
Ça va?
Coucou.
C'était pas trop chiant pour venir?
Bon, non, ça va.
Même avec le 170, mais en fait, il s'est pas arrêté.
Il s'est arrêté.
Il
était en mode terminus.
Porte de Paris, ouais.
Et je suis partie un peu en retard.
Tu veux du thé?
Non, merci.
Mariama et Amina Comté.
Alors, nous, on habite dans la cité de la Maladrerie. L'architecte, c'est René Gayousset.
Gayousset.
Quand j'étais petite, j'étais jalouse de mes copines parce que bah, y en avait qui étaient dans des bâtiments un peu comme on voit à la plaine où ça a l'air très nouveau et c'est rectangle.
Donc c'est pas des bars du tout, c'est vraiment genre des bâtiments avec des formes originales faites un peu pour s'étendre. Ouais. T'as des apparts avec des pièces rondes, t'en as qui sont vraiment en forme d'étoile, c'est une galère à meubler. Et ça a été conçu pour que chaque logement, il ait un espace vert.
Et notre mère, elle a toujours été super contente d'avoir son coin vert. Je me rappelle, une fois, j'avais arraché un peu de l'herbe et elle m'avait grondé. Elle était en mode, les filles, votre père et moi, on aimerait vraiment avoir un jardin, donc on fait attention à la terrasse et tout. Et en vrai, nous aussi, c'était super sympa d'avoir déjà la terrasse. Et en plus de ça, juste devant, il y a un parc. C'est très vert. Et
dans le parc, il y a un centre aéré.
Et auquel j'allais, du coup, quand j'étais petite. Ouais. Et quand il y avait de la neige, encore quand on était petite, on
glissait sur les...
Ouais. Parce qu'il y a des mini-collines. Enfin, c'est pas des collines.
Enfin, la luge, on se mettait sur un sac plastique et on descendait. En... C'est ça, la luge.
C'est le même effet.
Donc, ouais. Voilà. Et ça, à un moment, ils ont parlé de raser la moitié du parc pour faire passer une bouche d'aération du métro ligne 15 du Grand Paris. Et finalement, je crois pas que ça se passe. Mais voilà, c'est chaud quoi. Tous les ans, de toute façon, avec les travaux, tous les ans, il y a des nouvelles alertes en mode bon, peut-être que telle partie va être détruite et que vous allez être relogé. Non, finalement, on va casser le parc. Non, finalement, c'est un autre bâtiment qui sera, vous allez être relogé. Non, finalement, on va amputer les cités de telle partie et tout, genre, chaque année.
Mais ils l'ont bétonné quand cette terrasse, genre, c'était pourquoi ils l'ont bétonné, quand est-ce qu'ils ont fait ça
Il me semble que c'était un mouvement de rénovation pour toutes les appartements
non,
comme ça en
non,
fait
non
pour
c'était
le
pas de la rénovation de... c'est qu'il y avait une histoire d'infiltration d'eau je sais pas quoi
oui,
et c'était plus ou moins dans l'axe mais ils ont pas bétonné toutes les terrasses et
mais
coup...
c'est parce que notre voisine du bas Franca elle a commencé à avoir une fuite sur son plafond, ils ont pensé que c'était peut-être nous. Et ils ont rénové la terrasse, au final c'était pas nous, elle avait toujours sa fuite.
Et non, mais surtout qu'il y a 5 dégâts des eaux du coup dans l'appart, parce que comme il n'y a plus de terreau, bah ça retient plus l'eau. Parce que moi là il y a tout le mur, dans ma chambre, il est complètement pourri. Genre c'est insalubre.
Il y a des fourmis.
Il y a des fourmis qui entrent et tout. Ça m'est déjà arrivé d'être genre en automne ou en hiver et de sentir de l'eau genre sur mon front. Genre. Et ça c'est le long du mur. Mais en fait, c'est juste, c'est trop bête, mais c'est vrai que quand t'as pas genre un mètre de terre, bah oui, il y a des infiltrations d'eau si tu bétonnes et qu'il pleut très fort.
C'est trop chiant, un changement aussi drastique.
Débile, genre.
On change du tout au tout, on enlève nos souvenirs et tout, nanani, et au final, ça vraiment, ça n'a servi
à rien.
Et ça a
c'est
créé
pire.
Beaucoup d'autres problèmes, et c'était évident.
Et à l'intérieur de la cité, il y a des, dans certains rez-de-chaussée de bâtiments, il y a des ateliers d'artistes. Et il y a un centre d'art aussi, c'est là que j'ai commencé à faire de l'art plastique. C'est au-dessus de la bibliothèque, qui est aussi dans le quartier.
Ça, il y a toujours eu des artistes dans la maladrerie, mais plus le temps avance, plus il y en a.
Ouais.
Moi, j'avoue que des fois, ça me saoule un peu. Genre, je sais qu'ils ont toujours été là, ça fait aussi partie de la maladrerie, mais il y a des gens, je les vois, plutôt des jeunes, ça me saoule. Genre...
Dans quel sens, qu'est-ce qui te saoule?
Ça m'énerve de les voir parmi nous. Ça m'énerve de les voir parmi les darons, ça m'énerve de... C'est pas exactement vous ici.
En fait, quand ça a commencé à m'énerver, je suis rentrée des États-Unis et je vois autour du Franprix, etc., de la maladrerie, des gens qui sont habillés comme moi. Et je me dis, alors qu'est-ce qui se passe?
Je me rappelle.
Il y a
que
des
tu
nouveaux.
Dit.
Oui, ils sont habillés comme moi et ça, c'est pas un bon signe. C'est que c'est des Parisiens, quoi.
Ouais, elle avait dit, oh, il y a des gens, on dirait, qui sortent de mon école, c'est bizarre. C'est trop un compliment de dire ça. On dirait que tu sors des Beaux-Arts. Ça veut dire que t'es habillée crado. Hein.
Bah déjà, quand j'ai été voir l'expo Y Thunder Cage et tout, du coup, ça veut dire que tous les gens de Cergy, Beaux-Arts, déco, tout ça, on est venus là. Ensuite, avec Nathalie, on a été voir l'expo de Désert Déco à Push Manifesto. Donc, on a marché 20 minutes d'Aubervilliers. Et ensuite, on est revenu sur nos pas à Mairie d'Aubervilliers pour boire un café, genre... avec nos autres potes et tout avant de rentrer, et on était le seul groupe en mode jeunes, look de parisien branché et tout machin, etc. Genre là où vraiment je me rappelle d'époque dans mon adolescence, mais personne aurait eu l'idée de venir prendre un café dans un bar tabac à Mairie d'Aubervilliers, quoi. Personne aurait. Mais genre vraiment tout le monde était en mode, mais Marama, t'es sûr que tu rentres et tout à cette heure-là, c'est pas un peu trop la zone et tout, personne serait venu faire des activités culturelles, chill, cool. Aubervilliers.
En vrai, en gros, c'est juste des Parisiens du 18e ou juste d'à côté, parce qu'ils peuvent prendre la 12 maintenant,
oui,
également.
Oui.
Mais
oui,
avant,
vrai.
Ce genre de personnes, elles n'étaient pas du tout là. Enfin, c'est des blancs qui font un peu propre.
En mode, on est sale.
Mais non, mais t'as capté, ils ont des trench et tout, genre.
Oui, enfin voilà, genre look 18e et tout.
Ouais.
Alors que avant, c'était nous qui portions fièrement la torche.
Bah ouais, on passait.
Tout le monde. C'était nous les plus bobos avant.
Cette, ouais, c'est vrai. Hein. C'est réel.
Ouais.
Voilà, là on voit apparaître à nouveau un paysage urbain plus ancien, un immeuble de 3 étages en briques. Là-bas, on a aussi des maisons plus basses. Donc on voit là, on a vraiment un palimpseste sur différentes phases de construction urbaine. Et tout l'enjeu, hein, on le voit bien hein, sur ces bâtiments-là, c'est est-ce qu'ils vont résister à la transformation en cours dans un contexte de densification, donc est-ce qu'ils vont résister ou pas, et qui évidemment, au-delà des bâtiments en eux-mêmes, pose la question de qui habite ces quartiers-là, avec progressivement le remplacement de populations ouvrières par des populations plutôt classe moyenne à aisée, ce qu'on appelle la gentrification. Et je me souviens du choc la première fois où, il y a peut-être 2 ans, j'étais me balader à Saint-Ouen et c'était les travaux avaient commencé pour construire tout ce qui est village olympique, etc. Et là, tout était rasé, quoi. C'est vraiment une impression de choc. On était au milieu d'un chantier où il n'y avait plus rien, plus de traces de ce qui existait. Et j'ai commencé à lire effectivement pas mal de travaux sur le Grand Paris et sur la question de la modernité parisienne, de la postmodernité, ce genre de choses. Et David Harvey, qui est un géographe, ce qu'on appelle la géographie radicale, géographie critique nord-américain, avait fait une série de travaux sur Paris, capitale de la modernité, et où il analysait finalement l'haussmannisation, c'est-à-dire l'ampleur des travaux. Et plus je lisais sur ça, plus je me disais qu'en fait, à une autre échelle, c'était exactement ce qu'on était en train de dire. C'est-à-dire pareil, hein, l'intégration là, alors à la période d'Haussmann, c'était l'intégration des faubourgs parisiens dans ce qui est devenu le Paris qu'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le Grand Paris, on intègre les communes de la première couronne à ce Grand Paris, et avec des travaux d'importance, donc Paris en chantier, hein, ça, on l'a tous vu, tous ceux qui habitent dans la région parisienne le vivent au quotidien, et puis une transformation sociale qui accompagne cette transformation urbaine, avec moi une question qui était le début de mes recherches sur le Grand Paris, sur mais à force de rejeter les pauvres de plus en plus loin, où est-ce qu'ils vont ?
Quelques arbres, quand même.
Quelques arbres qui résistent.
Et les arbres, c'est vraiment quelque chose qui est
très fort pour les habitants, notamment quand dans ces projets-là, on arrache des arbres. Hein. Il y a vraiment cette idée que c'est un repère, on l'a vu grandir, il est marqueur de saison, etc. Et souvent, beaucoup de mobilisation habitante se fait lors de ces arrachages d'arbres qui peuvent s'apparenter à ce que Karen Thiel appelle des micro-traumatismes urbains. C'est ces violences parfois qui semblent anecdotiques et qui en fait marquent beaucoup les habitants.
Prochain arrêt, Dunille à Courneuve.
Depuis 29 ans.
Shaïma Drira.
Je dirais même que ma famille vit dans ce territoire depuis, sur ce territoire depuis maintenant 3 générations, voire 4 générations. Donc je me sens parfaitement ancrée ici. J'ai grandi à La Courneuve, dans la cité des 4000. La cité des 4000 de La Courneuve, c'était Robespierre, là où ma famille a vécu. C'était Balzac, c'était Renoir. Et au cours des années 80, la ville de La Courneuve, et en particulier la cité des 4000, a connu de nombreux drames, dont la mort du jeune Toufik Ouanès, une mort tragique qui est survenue pendant le mois du Ramadan. Ce jeune garçon, qui n'avait même pas 10 ans, a été fusillé par un habitant. Donc cette histoire tragique, elle a été, je pense, un traumatisme pour les habitants, mais aussi pour l'opinion, car c'était un enfant et ça a été, je pense, compliqué de comprendre cette pulsion morbide au lendemain de la guerre d'Algérie, comment on peut en arriver à un tel acte. Mais je crois qu'au départ, au début des années 60, la cité des 4000, c'était quand même l'utopie du vivre ensemble. Et cohabiter ensemble les anciens indigènes des colonies et les pieds noirs, et une partie de la communauté séfarade. Et donc ma famille est arrivée dans la cité des 4000 de la Courneuve à la fin des années 70, après avoir vécu dans les bidonvilles de Nanterre. Mes grands-parents vivaient dans un appartement de plus de 100 mètres carrés, après avoir quitté les bidonvilles de Nanterre, donc pour eux c'était le confort moderne. Il y avait un attachement très, très fort, très puissant avec cet appartement qu'ils ont pris le temps d'aménager, d'habiter, en l'aménageant comme ils le souhaitaient, avec des meubles qu'ils avaient achetés au Conforama du coin. C'était pour eux, je pense, une forme d'élévation sociale après avoir vécu tant d'années au bidonville de Nanterre. C'était leur appartement, leur cocon, leur maison. C'était le foyer dans lequel on a vécu tant d'événements, je pense, importants de notre histoire familiale, des anniversaires au baptême, des ramadans, en passant par les fêtes de l'Aï, les fêtes de Noël, le jour de l'an. Tous nos souvenirs étaient quelque part partagés dans cet environnement, ce lieu qui était prégnant en fait dans notre histoire familiale. Et moi, j'ai pas un événement fondateur de ma vie personnelle qui ne s'est pas joué dans cet appartement. C'était l'appartement de ma grand-mère. Elle avait reconstitué son jardin d'Éden dans son balcon qui rappelait ses souvenirs d'enfance en Algérie et à Tunis, puisqu'elle a vécu deux immigrations. Et c'était aussi l'appartement avec son carrelage bleu et marron. C'était la cuisine qui était aménagée de manière très particulière, qui était peinte en rose ou en saumon de mon grand-père. Enfin, je me rappelle aussi du papier peint jaune, quand même particulier, quoi, et que ma grand-mère aimait beaucoup. Donc voilà, c'était un foyer, en fait, un intérieur. Et quand on parle de ces logements-là, on en parle de manière très technocratique. On dit ce sont des logements à détruire puisqu'ils sont indignes, puisqu'ils sont agencés de manière un peu trop géométrique. Hein. C'est souvent la critique qu'on fait des grands ensembles. On dit souvent que c'est une architecture militarisée. Et pourtant, les habitants se sont réappropriés ces espaces, en ont fait un chez-soi quasi poétique. Et quand j'ai pris le temps d'aller rencontrer pas à pas chaque habitant de la barre Robespierre en faisant du porte-à-porte, bah, je me rendais compte que c'était coloré, que c'était vivant, qu'il y avait aussi une poésie de l'espace. Et quand on contraint un habitant de déménager, eh bien tout ça, ces souvenirs, cette reconstitution de l'espace qui vous constitue, je veux dire intimement, se voit effacée brutalement. Et je crois que c'est ça qui a traumatisé mon grand-père, qui a pris tellement de temps à aménager cet espace, à en faire un cocon, à en faire un chez lui après avoir vécu une immigration brutale. Robespierre, c'était finalement le moment de la paix, le moment de l'ancrage, le moment où on pouvait enfin se poser, où on pouvait enfin se projeter vers quelque chose et constituer quelque part un lieu qui nous fondait, je veux dire, collectivement. Et du coup, le déménagement vers ce nouvel appartement a été extrêmement difficile puisqu'on ne reconnaissait plus l'agencement de l'espace, on avait du mal à se l'approprier. Puis à 80 ans, qu'est-ce qu'on va se réapproprier? On est trop vieux, on n'a plus envie de repeindre en jaune ou en vert ou en violet la salle à manger, la salle de bain, on n'a plus envie de refaire le carrelage. On a envie juste de se poser, de se reposer, de quelque part d'avoir un rapport méditatif au lieu. Et ça, ça disparaît quand on est obligé de partir. Et je crois que mon grand-père, lui, ça le troublait, ça le perturbait énormément de vivre dans un espace qu'il n'a pas choisi. Et je crois que c'était d'autant plus douloureux que ma grand-mère était à l'époque en situation de handicap, et ça ne faisait que rajouter des difficultés au quotidien. Donc lui, il vivait ce nouvel appartement comme un autre exil après avoir quitté l'Algérie, après avoir quitté la Tunisie, après avoir quitté les bidonvilles de Nanterre. À 80 ans, il se sentait encore exilé de lui-même.
Vous voyez là, le nouvel ensemble, là, ce cœur de ville, donc c'est 1170 logements. Et à 75%, c'est l'accession à la propriété. Il y a une part de logements intermédiaires aussi, et je crois que c'est que 10% de logements sociaux sur les 1170 logements prévus. une densité de bâti et de logements qui est assez considérable. C'est-à-dire les bâtiments sont hauts, sont des gens qui font entre 15 et 18 étages. Ils sont à touche-touche. Ça veut dire aussi qu'il y a moins de lumière, vu que la vue est obstruée assez rapidement par un autre bâtiment. Tandis que si vous regardez le chemin vert et les tours, il y a peu, voire pas de vis-à-vis. Les logements sont abondamment éclairés par la lumière naturelle du jour. C'est beaucoup plus aéré, voyez, dans leur implantation. Par ailleurs, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les logements construits dans les tours HLM de Bobigny, dans les années 70, sont des logements relativement grands, avec des superficies assez généreuses. Certains bénéficient d'un balcon, de loggia, donc bien éclairés. Et c'est des choses qu'on ne retrouve plus dans la promotion immobilière, dans les logements construits aujourd'hui dans le cadre de la promotion immobilière, en lien notamment avec le Grand Paris, le développement du Grand Paris. Bon, après, ces ensembles ont aussi des inconvénients, bien sûr, ces ensembles. Et d'ailleurs, ils demandent aujourd'hui à être réhabilités, à être rénovés. Mais il y a aussi beaucoup d'atouts, quoi. Par exemple, des derniers étages, ils ont des vues panoramiques extraordinaires, avec des couchers de soleil. Je veux dire, quand vous habitez dans des tours comme ça, à partir de, je dirais, du 12e, 15e étage jusqu'au 18e étage, voilà, vous avez des ciels, des vues exceptionnelles, quoi. Voilà, et là, sans aucun vis-à-vis. Vous voyez. Donc ça, c'est vrai que je trouve que c'est un paradoxe, quoi. On est dans une forme, à nouveau, de table rase. C'est-à-dire, on ne regarde pas avec suffisamment de... peut-être de tendresse, ou avec suffisamment de curiosité, ce qui a été fait. On est toujours dans une forme de radicalité. On démolit, on détruit pour concevoir et élever quelque chose de totalement différent, ou très différent. Il y a une brutalité dans la manière dont on fabrique, on fait la ville en banlieue, en Seine-Saint-Denis. Et il y a aussi cet sentiment amer d'habiter l'échec. C'est-à-dire qu'on a grandi, on a vécu dans quelque chose qui a échoué. Donc ça nous dévalorise. Ce manque de considération pour ce qui a été fait, pour ce qui a été aménagé, construit. On est en Seine-Saint-Denis dans l'opprobre, dans la destruction, dans l'échec, en fait. Voilà. Ça a échoué. Vous habitez en fait ce qui a été une erreur. Voilà, vous habitez une erreur et votre habitat il vous définit. Il vous aide à vous construire. Vous avez vécu dans l'erreur. En fait. Ce qui a constitué votre quotidien, ce qui vous a sensibilisé à la ville, à l'espace, au monde, en fait, c'est une erreur qui n'a comme devenir que la démolition, la destruction, la disparition, et qu'il faut remplacer impérativement par autre chose. Là, il y a une brutalité supplémentaire.
Prochain arrêt, Stalin-Cerizet. Prochain arrêt, Stalin-Cerizet.
Je m'appelle Alexia Fiasco, enfin, c'est mon nom d'artiste mais que j'utilise aussi tout le temps maintenant. Je travaille aux Fauvettes. La cité des Fauvettes, c'est une cité qui va disparaître dans une ville qui va bientôt disparaître parce qu'elle va être ralliée à la ville de Saint-Denis. Donc en fait, la ville de Pierrefitte ne va bientôt plus être. C'est une ville qui fait partie des villes les plus pauvres du 93, elle est en faillite. Là, on est dans un énorme axe de rénovation urbaine. Donc en fait, quand vous arrivez, il y a l'arrêt de tram, mais il est quand même assez récent. Avant, c'était un endroit super isolé. En face, il y a la cité des Joncherolles. Donc en fait, là, on se retrouve entre un cimetière, une cité avec un quartier qui est en train d'être rénové avec des primo-accédants à la propriété. De l'autre côté, vous avez la ville de Stain où j'ai grandi. Et en fait, la ville de Stain et la ville de Pierrefitte sont séparées par les rails avec le train que vous allez entendre maintenant. Ça, c'est la ligne D. Et la ligne D qui est en petite quinzaine de minutes à Gare du Nord. Voilà. Mais pour aller jusqu'à la station du RERD, il faut bien marcher 20 minutes parce qu'en fait, c'est la gare de Pierrefitte-Stain. Donc la ville de Pierrefitte et la ville de Stain se partagent le même RER, mais aussi le même commissariat et plein de trucs en commun parce que c'est aussi deux villes qui vont pas très bien. Et en gros, la cité, elle date des années 60. Bon, on l'appelle aujourd'hui vulgairement cité, mais c'est juste parce que c'est une résidence ouvrière de l'immigration, quoi. Mais à la base, c'était une copropriété. C'est des gens qui n'avaient pas forcément les outils de lecture nécessaires à la bonne compréhension de savoir ce qu'implique d'acheter dans un endroit où, avec 136 foyers, de gens qui parlent des langues différentes, des gens qui savent parfois... Bonjour! Ça va?
Ouais.
Des gens qui savent parfois pas écrire. Et donc, comme beaucoup de quartiers comme celui-ci, en fait, tous les critères dont je viens de parler ont fait que les habitants se sont fait arnaquer par des syndics de copro deux décennies d'affilée. Qui a amené une sorte de frustration parce que c'est des gens qui payaient du coup des charges monumentales pour réparer des choses qui n'ont jamais été réparées. Et il n'y a aucun ascenseur qui fonctionne. La majorité des ascenseurs, ils ont arrêté de fonctionner dans les années 90. Là, aujourd'hui, la cité, c'est plus c'est un mélange de plein de choses, mais c'est plutôt devenu un espèce de lieu où des personnes essaient de survivre avec ce qu'elles savent faire. Il y a des gens qui savent faire de la mécanique parce qu'en fait, avant, le grand axe que la cité longe, en fait, c'était un axe de beaucoup de commerces automobiles. Donc, il y avait plein de garagistes, de vendeurs de pièces, etc. Et en fait, tout ça, tous ces garages ont été fermés de manière assez soudaine et violente. Et en fait, il y a plein de garagistes, notamment, qui se sont retrouvés sans garage, sans travail, du coup, qui ont perdu leur titre de séjour et qui ont décidé d'investir les espaces non habités ou non occupés de la cité, mais pas que, hein, dans la cité d'en face, il y en a aussi, et continuer, en fait, de pratiquer leur travail, mais en dehors du contexte légal. Et en fait, il y a des gens qui viennent de toute l'île de France pour voir ces mécaniciens parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils leur font confiance, alors qu'ils sont quand même dans une cité plus que dégueulasse et insécuritaire. Après, il y a aussi les jeunes qui ont grandi dans ce quartier, qui pour beaucoup aussi ont vu leurs parents croire en leurs rêves et au final être déchus de tout ce qu'ils possédaient, quoi. Donc là, je vous parle de gens qui ont fait des crédits il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui étaient des crédits à des taux bien différents de ce qu'on connaît aujourd'hui, donc beaucoup plus élevés, qui ont tout fait pour toucher, en tout cas, du bout des doigts, ce désir d'intégration, de d'émancipation par l'accès à la propriété, et qui ont tout perdu, quoi. Et quand je dis tout perdu, c'est même pas juste leur appart, mais il y en a qui ont perdu la santé, il y en a qui ont perdu des enfants, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de violence, il y en a qui ont perdu une jambe, enfin... C'est aussi la raison qui explique qu'il y a plein de jeunes et de moins jeunes qui se sont retrouvés à devoir déménager d'ici, mais qui ont vu leur cité rester vide et qui se sont dit « bon bah, en fait, je vais rouvrir des apparts et je vais me faire de la thune, quoi », ce qu'on appelle aujourd'hui des marchands de sommeil, et qui était une figure que je diabolisais quand même beaucoup avant de venir ici. Elle a pris une autre tournure en venant ici. Je dis pas que... c'est quelque chose de bien et que ça justifie le contexte de violence qui en découle, quoi. Donc en fait, là, les gens, la majorité des gens qui restent aujourd'hui, c'est ça. C'est des victimes de marchands de sommeil qui sont en fait des victimes de victimes, quoi, parce que les marchands de sommeil à des endroits sont aussi des victimes. En fait, c'est un peu ça, c'est... Ça va ? C'est, voilà, tout le monde est l'oppresseur de quelqu'un, quoi. Et tout le monde est la victime de quelqu'un. Et ici, c'est très, très flagrant, quoi. Là, vous voyez, la majorité des fenêtres, elles sont murées soit par des briques, soit par des plaques en fer, des plaques de métal. Et en fait, moi, je pensais que chaque appartement condamné était vide. Et là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que pas du tout. En fait, vous avez encore des gens qui vivent sans fenêtres, sans lumière, qui payent des loyers illégaux, quoi. De toute façon, vous le voyez à la tête des fenêtres, en fait. Quand il y a des jolis petits rideaux, c'est que là, par exemple, la famille Toussaint, là, c'est des propriétaires qui sont encore là et qui sont en train de négocier avec, l'État pour que, en fait, l'État leur rachète l'appartement à un prix respectable. Bleu, pardon. Et eux, ils ont un avocat, etc. Donc en fait, ils vont pas lâcher, ils vont pas laisser leur appartement pour 10 000 euros comme certains l'ont fait par peur. Bon, 10 000, 20 000, 30 000, ça dépend aussi parce qu'ils rachètent aussi les crédits des gens. Donc, ça dépend aussi d'à quel point les gens ont fini de payer leurs crédits. Donc en fait, ils rachètent les appartements et ils relogent les gens dans des HLM pour la plupart. Moi, je suis née dans le 93, j'y ai grandi et j'ai vu le territoire se transformer très vite. Et j'ai surtout vu plein d'acteurs socioculturels débarquer d'endroits qui ressemblaient à tous sauf ici et avoir les outils et les clés de langage administratif pour récupérer des appels à projets pour s'approprier ces espaces. Donc moi, j'ai beaucoup hésité. Finalement, je me suis dit que bah, en fait, moi aussi, j'avais envie de... Enfin, je préférais que ce soit moi qui le fasse. Et moi et tous mes contacts et toutes mes potes. Donc l'idée à la base, c'était de remplacer chaque appartement qui allait être vidé par des ateliers d'artistes. Et on a réussi à transformer le projet. Et maintenant, le projet, c'est plutôt de faire tout un travail de mémoire avec les habitants, qu'ils se rappellent qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus bah, grâce et à cause de cette cité, quoi. De recontextualiser en fait leur existence, de leur permettre d'avoir un petit peu de distance pour qu'ils puissent comprendre ce qui est en train de leur arriver. Et aussi de se dire que bah, c'est pas de leur faute, quoi. C'est pas parce que papa et maman savaient pas lire, c'est pas parce qu'ils ont fait des bêtises à l'école, c'est pas de leur faute, quoi. Pas parce qu'ils ont pas su écouter, pas su comprendre, mais que ça fait partie d'un truc qui nous dépasse tous. Et voilà.
C'est vrai que ces cités-là qu'on a présentées comme futuristes sont aussi devenues quelque part un patrimoine. Un patrimoine avec une mémoire collective, complexe, qui est baroque, puisque c'est celle de l'immigration, c'est celle des territoires ultramarins, c'est celle des quartiers populaires. Et comment faire mémoire de ce qui est en train de disparaître ? Trouver des méthodes, trouver des formes de patrimonialisation toujours vivantes, toujours tangibles, palpables dans ces quartiers populaires. Très souvent, l'histoire collective nationale d'un peuple, c'est l'histoire des dominants, c'est l'histoire des bourgeois. Mais l'histoire des petits gens, l'histoire de la quotidienneté, l'histoire de l'ordinaire, l'histoire ouvrière, elle est souvent exclue quelque part de la patrimonialisation. Et moi, ce que j'ai voulu prouver, en tout cas dans mes recherches, dans mes travaux, c'est que la mémoire de ces quartiers, de ces grands ensembles, à chaque fois décriés, elle subsiste et elle résiste, elle s'obstine. Il y a bien un processus de patrimonialisation, je pense, des logements HLM, des grands ensembles et des banlieues en général, et je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit.
Nous sommes momentanément retenus en gare. Le départ aura lieu dans quelques instants.
We are currently being delayed. Este tren saldrá con retraso.
J'habite dans le 93, je travaille dans le 93, je meurs dans le 93, après je ne sais pas où je vais y aller. Nous, on reste quand même des souvenirs, c'est des beaux souvenirs. Parce que des fois, des gens qui parlent dans le 93, mais je dis, moi j'habite dans le 93. J'ai mes enfants qui sont bien dans le 93, il n'y avait aucun des deux que jamais qui m'ont créé de problème, il y avait quoi que ce soit. Ben voilà, on habitait dans une cité, voilà, il n'y avait pas aucun... Oh, il y avait dans le 93. C'était pour moi, on disait pour eux, le 93, c'est grave, quoi. Mais on aime Drancy, hein. Franchement, on aime Drancy. Hein. Je ne peux pas me dépasser de Drancy maintenant, même s'ils vont me dire, tu vas aller habiter à Paris, non. Ouais, c'est Drancy, quoi. C'est la vie. J'aime le 93 et voilà, je peux pas me dépasser de 93, même vers le travail, vers mon logement, vers tout. De toute façon, je suis déjà adaptée avec les gens, avec les problèmes des gens, avec les problèmes de bus, avec les problèmes de tout. C'est comme ça, voilà. C'est la vie.
Merci d'avoir patienté.
Tu fais comment pour rentrer à la maison, Amina? Quand tu sors la nuit, du coup?
Moi, je crois que je prends plus du tout les noctiliens. Ou bien je prends un noctilien pour me rapprocher de Gare de l'Est, pour arriver à Gare de l'Est. Ensuite, je prends un Vélib. Et du coup, je fais le chemin de la 7 avec un Vélib. Et ensuite, arrivé à Port de la Villette, il faut être réveillé. Genre, faut se dire, ok, c'est parti. Il y a un rond-point, il y a des voitures à toute heure.
Moi, il y a la plaine en plus. Faut que je gomme les distances dans ma tête. Je me dise, ok, bah oui, une fois que t'as dépassé le pont du lundi, c'est comme si t'allais tout droit, c'est rien. Je fais comme si c'était pas 3 km. C'est rien. Tranquille, c'est tout droit, il n'y a rien. T'as la piste pour toi. Et les seuls autres qu'il y a, c'est des gens aussi qui rentrent de soirée. Ou alors, genre, des mecs chinois qui sont sur des trottinettes électriques avec des cartons de l'entrepôt. Et en fait, tu longes le canal et sur la gauche, donc il y a une espèce de mur, un terrain vague, je sais pas quoi. Et t'as toutes les tours de Front Populaire qui dépassent. Et au loin, la tour Pleyel qui est en blanc maintenant, avec toutes les grues autour. Et la tour Pleyel 2 qui sont en train de construire pour les JO. Hier, on était en Bolt avec Théo et genre, les Bolt, ils sont tout le temps grave bavards. Et le chauffeur, il était en mode, ouais, moi j'ai un copain qui bosse aux billetteries des JO. Et il m'a dit qu'on attend 7 millions de visites.
Ah ouais.
Ouais. 7 millions. Bon, je sais pas s'ils arrêtent 7 millions.
Mais chez toi.
Chez toi. Mais oui, mais genre, même s'il y a genre 1 million, ils vont être où?
C'est ça qui est drôle.
Et quand ça sera pas la nuit, ils vont être où? Quand ils seront pas
chez eux, ils vont être où, genre. Tu sais combien c'est une nuit? Le coût de une nuit à Saint-Denis, la moyenne des prix, c'est combien c'est? Une nuit? Pas une semaine, une nuit.
Du coup, 1000.
Ouais, dans les hautes, dans voilà. 800 balles, un truc comme ça. En fait, il y a des gens vraiment qui fassent point le sport. À chaque fois, ça m'étonne. Ouais. En mode, vous voulez vraiment vous taper Paris sur Bouquet en
être...
été
ça
pour ça
dinguerie.
Déjà, il va faire 40 degrés. Le RER A, il va même pas marcher. Le RER B, il va s'arrêter en plein milieu sous terre avec des bébés et tout, genre. La ligne 13, rien, la ligne 14. Nous, déjà, entre si nous, c'est, pas, la, dégages, c'est la guerre. C'est ça, tu dégages.
Tu dégages. Casse ta gueule d'ici ou gère-toi.
Serre à droite. Serre à droite
ça,
dans
en fait,
l'escalator.
Marche vite.
Et là, les gens qui vont être en mode est-ce que vous savez me le dire? À Châtelet.
Ouais, vraiment. Vraiment.
Le ticket à 4 euros avec un QR code, bah oui, allons-y.
La Plaine, Stade de France. La Plaine, Stade de France.
On n'est pas fort dans nos têtes, on n'est pas riche dans nos poches. C'est pas tous les jours la fête, c'est pas tous les jours si moche. Connaître souvent la défaite donne l'impression d'être.
d'être cloche. Mais si t'es resté correct, t'auras l'appui de tes proches. Car un homme qui reste honnête donnera envie qu'on l'approche. Un homme qui n'a pas sa tête, on lui fera des reproches. Intelligent ou bien bête, le but remplir la sacoche. Voilà ce que l'homme respecte, et voilà à quoi il s'accroche. De 7 à 77, de Barbès à l'avenue Foch. C'est pas les mêmes prises de tête, chez nous les problèmes ricochent. Elle est petite la planète, et le mal se rapproche. Je veux remplir toutes les assiettes avant de graver mon blaze dans la roche. Je m'inquiète, et rien à foutre de pas rouler en Porsche. T'inquiète, c'est pas pressé que j'arrive en force. Je m'inquiète, et rien à foutre de pas rouler en Porsche. T'inquiète, c'est pas pressé que j'arrive en force.
On va pas se mentir, détruire le peu qu'on a. On met un pied après l'autre, avance à petits pas. On n'est pas venu pour fumer la moquette. Pas plus remplir Fleury, Bois d'Arcy ou les Baumettes. On n'est pas là pour se contenter des minima sociaux. On préférait que nos morceaux passent en boucle à la radio. On n'est pas là pour choquer par notre nonchalance. On pense à notre lendemain, mais est-ce qu'ils pensent à nous? Et toutes ces fausses promesses, ils ne se souviennent de rien. Mais bon, c'est sur l'instant qu'ils sont prêts à tout. Nos parents ont construit la France, ne sont que locataires. Ils ont fui l'arbitraire pour un rêve éphémère. Des vacances à la mer, 3 semaines dans l'année. Les 49 autres trimer pour vivre, il faut manger. Se ranger quand on a choisi de vivre honnête. Un bon pouvoir au livreur qui risque sa vie sur sa mobilette. C'est pas la peine d'être pressé vu la lenteur dont les choses avancent. Pas la peine de se lamenter, d'en faire un cas de conscience.
On va pas se mentir, détruire le peu qu'on a. On met un pied après l'autre, avance à petits pas. Et y'a pire que pas y croire, baisser les bras, c'est laisser tomber. Être l'ombre de soi-même, toucher le fond, plus jamais remonter. Y'a pire que pas pouvoir, c'est voir qu'on peut et ne jamais tenter. Lâcher l'affaire à l'heure ou à la hauteur, il faut se montrer. Se cramponner, accepter les crampes et s'en tamponner. La vie c'est une route, un long chemin, une longue randonnée. Où tout s'achète et se vend. Y'a rien à donner. Pour aller vers ses rêves, ici faut payer cher son ticket.
Je veux aller où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières.
C'était Ce qui disparaît, cartographie d'une nostalgie du 9-3. Avec Jamila Rabat, ma maman, Sébastien Radouin, historien de l'architecture, habitant de Bobigny, Pauline Guinard, géographe, Mariama Conté, artiste, habitante de Saint-Denis, Amina Conté, étudiante, habitante d'Aubervilliers, Shaima Drira, doctorante, ancienne habitante de la Courneuve, et Alexa Fiasco, artiste, habitante de Saint-Denis. Prise de son, Benjamin Reyes et Guillaume Ficheux. Mixage, Claire Levasseur. L'expérience, Aurélie Charon et Inès Duperron. Ce qui disparaît, cartographie d'une nostalgie du 9-3, un documentaire de Myriam Rabat-Konaté, réalisé par Somanina.
Thank you.